RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Anseline, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Franck Riester, ministre de la Culture. Merci d'être là.
Merci à vous.
Et d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, 6 jours après l'attaque à la préfecture de Paris, le président Emmanuel Macron a rendu hommage aux 4 policiers tués dans la cour de la préfecture de Paris. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
L'administration seule et tous les services de l'État ne saurait venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, et non le soupçon qui corrode, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République.
Alors dans ce discours, ce matin, c'était place à l'émotion, bien sûr, et l'émotion dissout pour un temps la colère des policiers et la colère des Français. Mais il y a quand même un petit peu de politique dans ce que vient de dire, ce qu'on vient d'entendre. C'est cette idée de vigilance. Ne risque-t-elle pas de se transformer en ère du soupçon, même si le président a fait vraiment le distinguo entre vigilance et soupçon, justement?
Oui, et dénonciation.
Et dénonciation. Délation.
Délation. Donc je pense
Il n'a pas employé les mots, mais.
Non, mais on voit bien ce que vous voulez dire. Et effectivement, la limite est parfois ténue, mais la vigilance est nécessaire. C'est vrai que c'est un devoir de tous d'être attentif, vigilant, d'être à l'affût, si je peux dire, de signes qui laisseraient entrevoir le passage à la radicalisation. Et cet appel à la mobilisation de tous est un appel évidemment éminemment important. Je crois que le président de la République a trouvé les mots ce matin pour dire ce qu'était cette hydre islamiste, dire ce qu'était ce combat terrible que nous devons mener et qui va prendre certainement beaucoup de temps et qui est un combat de tous les jours. Je pense moi aux forces armées françaises qui sont sur le terrain, notamment en Afrique, notamment au Sahel, pour lutter contre le terrorisme islamiste. C'est le cas de toutes les forces de police, de gendarmerie, les services de renseignement qui sont mobilisés. Et on voit bien que, avec cet exemple, même au sein, parfois, de ces forces-là, il peut y avoir une radicalisation.
Un ennemi intérieur.
Et cette vigilance est donc fondamentale, comme est fondamentale d'aller encore plus loin pour resserrer le tamis de la lutte contre l'islamisme et pour l'identification de ces terroristes. Et ce qu'a annoncé le Premier ministre avec ces deux enquêtes confiées à l'inspection de mission, confiées à l'inspection générale des renseignements, pour suivre et regarder si les procédures en ce qui concerne le cas tout particulier de la préfecture de police, mais plus largement au niveau des services de renseignement, si ces procédures sont suffisantes, si elles sont adaptées et si on ne peut pas les renforcer encore davantage.
Mais ce qu'a dit ce matin Emmanuel Macron, c'est quand même une approche très nouvelle, parce qu'au fond, il dit aux Français « j'ai besoin de vous, je n'y arriverai pas sans vous ». Enfin, on n'y arrivera pas sans vous. C'est une responsabilité considérable, finalement, qu'il fait reposer aussi sur les épaules de tous les citoyens. Parce que, vous l'avez dit, la frontière est très difficile. Comment fait-on ? J'ai un voisin qui, soudainement, se met à porter des tenues traditionnelles, ou à se laisser pousser la barbe, ou à ne plus dire bonjour à ma femme du jour au lendemain. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois prévenir ? Qui dois-je prévenir ? Est-ce que si je ne préviens pas, je suis un irresponsable ? Vous voyez dans quel type de cas de conscience ça peut vous placer?
Oui, non, mais je reconnais que c'est un sujet qui est un sujet complexe. Le président de la République a eu raison de l'aborder. Vous savez que je me rappelle des attentats dans le métro il y a quelques années où il y avait eu une communication de la RATP qui disait soyez vigilants, chacun est en charge aussi de d'être les yeux.
Là, c'était une instruction précise, c'était si un collier est oublié, un bagage.
Oui, mais là, c'est d'identifier effectivement à un moment donné une récurrence de comportements qui laisse entrevoir une éventuelle radicalisation. Ça s'adresse particulièrement, évidemment, à toutes celles et ceux qui sont en responsabilité avec une autorité publique. Les policiers, les gendarmes, les représentants de l'État, celles et ceux qui ont un pouvoir d'autorité de l'État.
Alors,
puis à tous les Français dans ces moments où nous devons être absolument vigilants face à ce terrorisme, sans tomber, et c'est toute la difficulté de ce combat, sans tomber dans la discrimination, sans tomber dans le jugement, sans tomber dans la délation. C'est cette limite-là qui est pas évidente, mais vous savez, il faut pas se leurrer. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont déjà attentifs. Mais il faut l'être encore davantage. Et il faut l'être encore davantage, notamment quand on a une responsabilité, quand on porte une partie de l'autorité publique.
Alors, on parlera de la réforme de l'audiovisuel. Dernière question, le ministre de l'Intérieur est sous le feu des critiques, donc Christophe Castaner, parce qu'il a parlé trop tôt après l'attaque. Il a affirmé aux médias qu'il n'y avait aucun signe de radicalisation. Comment accueillez-vous de la part de l'opposition l'appel à la démission? Diriez-vous, comme certains, que c'est un dysfonctionnement de l'État? Est-ce que vous diriez pas plus que c'est un dysfonctionnement administratif?
Vous savez, moi je crois que c'est un combat de tous les Français et qui devrait dépasser les clivages politiques. Le président de la République, le Premier ministre,
la question de la démission est dans le fond,
franchement, pour
c'est
moi,
de la mousse.
Pour moi, c'est de la politique politicienne. Ce combat, il est un combat de tous. Ça nécessite de la transparence. Ça nécessite que le gouvernement, et c'est ce qu'il fait, soit transparent avec notamment la représentation nationale, mais plus largement les Français, sur ce qui est fait, sur ce qui devrait peut-être être encore davantage fait. Et c'est pour ça que la transparence qu'il y aura sur les résultats des deux missions est essentielle. Et le Premier ministre s'est engagé à la faire. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de travailler avec tous et avec toutes, avec tous les groupes politiques, avec tous les partis politiques, pour mieux lutter encore contre ce fléau qu'est le terrorisme islamiste, de ne pas être dans le déni. Je crois que le président, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur n'ont pas exprimé quelque déni que ce soit sur la réalité de ce que nous vivons, sans tomber dans l'affolement et sans tomber dans l'instrumentalisation politicienne de cette question si difficile pour nos compatriotes, qui est un défi pour notre société, qui est un défi d'ailleurs pour notre société, comme dans beaucoup de sociétés dans le monde. Le terrorisme islamiste n'est pas simplement en France, mais c'est un défi parce que la France porte des valeurs particulièrement attaquées par le terrorisme islamiste.
Hier, il était question de l'immigration à l'Assemblée nationale, à l'occasion d'un débat sur le sujet. Le Premier ministre a évoqué la possibilité de réfléchir à des quotas d'immigration par nationalité. Ça aussi, c'est une nouveauté dans le discours d'un Premier ministre. Vous qui venez de ce qu'on appelait la droite humaniste, est-ce que cette idée-là, vous pourriez y souscrire ou est-ce qu'elle vous pose un problème ?
Non, moi j'y souscris en ce qui concerne l'immigration économique. Bien sûr, il ne s'agit pas
d'avoir... Mais par nationalité, ça répondrait à quelles exigences économiques ?
Il ne s'agit pas d'immigration liée au droit d'asile.
Non.
Le quota, là, n'aurait aucune pertinence, bien évidemment. Il ne s'agit pas non plus de quotas autour du regroupement familial. Là aussi, il n'y a aucune pertinence. Il s'agit bien de l'immigration économique. Et là, en ce qui concerne les pays, c'est surtout aussi et peut-être davantage au niveau des métiers. Je vais à partir de demain au Canada. Le Canada est un grand pays d'immigration d'émigration. Beaucoup de gens viennent au Canada, d'immigration viennent au Canada, et ils ont une politique très ambitieuse de quotas en fonction des besoins en matière de tel ou tel métier, de manque de personnel dans telle ou telle profession. C'est de ce point de vue-là, je pense, une bonne façon ensuite de veiller à la bonne intégration des gens que nous accueillons dans notre pays, ou en tout cas en l'occurrence qu'ils accueillent au Canada. Nous devons, si nous voulons que l'immigration soit une chance pour notre pays, comme j'en suis convaincu, elle l'est, c'est en accueillant encore davantage, dans les bonnes conditions, nos compatriotes, nos futurs compatriotes ou les immigrés. C'est parce qu'ils auront un emploi, c'est parce qu'ils auront un logement, c'est parce qu'ils auront la meilleure éducation possible qu'ils s'intégreront le mieux possible.
Alors, Franck Riester, vous êtes le ministre qui portait la réforme de l'audiovisuel public. Cette réforme va consister à créer une nouvelle structure sous forme d'une holding qui s'appellera France Média. On ne vous en voudra pas de vous être inspiré de notre appellation, puisque nous appelons France Média Monde, RFI France 24 et Monte Carlo Doualia. Donc elle va chapeauter Radio France, France Télévisions, France 24, RFI, Monte Carlo Doualia et l'INA. Alors cette superstructure aura un président, mais chaque entité aura son propre directeur ou directrice générale. Le président de cette holding sera nommé par le conseil d'administration et sur 12 membres, 3 seront des représentants de l'État. Voilà pour la réforme. Est-ce que tout cela n'a pas un petit arrière-goût de l'ORTF, avec la différence qu'aujourd'hui il n'y a plus de ministre de l'information comme en 64.
Et qu'il y a une offre privée très importante.
Absolument.
Et que la plupart des groupes publics et des groupes privés se sont organisés ce qu'on appelle en 360, c'est-à-dire en regroupant télévision, radio, internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une révolution des usages. Nos compatriotes, ou celles et ceux qui regardent les contenus proposés par l'audiovisuel public, en France, dans l'Hexagone, en Outre-mer, ou même partout dans le monde, ou qui écoutent les émissions de radio partout dans le monde, le font différemment qu'avant. Ils continuent de le faire sur leur poste de télévision, ils continuent de le faire sur leur poste de radio, mais ils le font aussi sur leur téléphone portable, ils le font sur des tablettes, ils le font sur leur ordinateur, quand ils veulent, en écoutant direct les émissions, ou parfois, et
bien
souvent...
Mais c'est pas le fait qu'il y ait une holding qui va changer.
Parce que ce qui compte, c'est de comprendre l'évolution de ces usages et de pouvoir offrir le meilleur service public, service possible, et en l'occurrence un meilleur service public, à ses auditeurs, à ses téléspectateurs, à ses internautes. Et pour ça, il faut avoir une approche globale, une cohérence globale de cette offre, pour que la puissance de ce qu'on propose en matière d'audiovisuel public permette de toucher davantage de personnes encore et de leur offrir le meilleur service public. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de services publics de l'audiovisuel, jamais eu besoin autant d'informations de qualité, jamais eu besoin autant d'informations de proximité, jamais eu autant besoin d'informations internationales, jamais eu besoin d'autant de rayonnement de la France dans le monde, jamais eu besoin d'autant d'éducation et de culture. Donc on n'a jamais eu besoin autant que l'audiovisuel public puisse trouver son public en lui proposant exactement ce qu'attend.
Quand on parle de réforme, souvent ça s'accompagne d'une volonté de rationaliser et souvent de faire des économies. Vous savez que des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, à travers le monde, peuvent s'inquiéter des conséquences de cette réforme, de l'éventuelle réduction de nos périmètres d'action, de l'éventuelle réduction de nos moyens. Donc, est-ce que, au-delà de nos propres intérêts, vous pourrez me dire qu'il y a de l'habileté dans ma question, mais est-ce que vous pouvez rassurer nos téléspectateurs et nos auditeurs sur notre avenir?
Oui, parce que il y a vraiment une ambition très forte du gouvernement pour l'audiovisuel public extérieur, pour l'audiovisuel public et pour son audiovisuel public extérieur. Encore une fois, la France, ça veut dire quelque chose dans le monde entier. Le regard que la France porte sur le monde est un regard qui est attendu, notamment en matière d'information, en matière de décryptage de l'actualité, en matière de contenu audiovisuel, en matière de fiction, en matière d'œuvres qui sont produites par la France. Et donc nous avons d'autant plus besoin de continuer à s'assurer que ce qui est fait et qui est bien fait, et je salue moi le travail exceptionnel qui est fait par France Média Monde, puisse continuer de le faire et même s'amplifier. Et pour ça, il faut qu'on puisse mieux s'organiser au niveau de l'audiovisuel public d'une façon complète pour mobiliser des moyens et la puissance de France Télévisions, contenus de France Télévisions, de contenus de Radio France, des contenus de l'INA, puissent être mieux mis à disposition de l'audiovisuel extérieur.
Mais l'actualité internationale ne va pas être le parent pauvre de cette... Est-ce que vous pouvez nous dire que notre mission reste inchangée et notre budget restera pérenne?
Ça sera en tête d'abord des missions confiées à l'audiovisuel public qui vont être réaffirmées dans cette loi. La dimension extérieure de l'audiovisuel public va être réaffirmée très clairement.
Ça sera une des priorités de cette réforme.
Ça sera une des priorités, comme elle est l'éducation, comme elle est la culture et comme elle est l'offre de proximité aussi, et comme elle est bien sûr l'information. Et ça sera mis en tête des priorités. Et c'est sur ces priorités, sur ces missions essentielles de service public, que vont se développer des projets de ce groupe public à travers ensuite ces entreprises. Et donc, vraiment, on en a parlé avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avec le président de la République, avec le Premier ministre, il y a vraiment une conviction forte qu'on a besoin d'audiovisuel public et qu'on a particulièrement besoin d'audiovisuel public extérieur parce que la France a besoin de rayonner, parce qu'il y a une attente de France, parce qu'il y a une attente d'un regard spécifique. Il ne s'agit pas de la voix de la France dans le monde. Il s'agit du regard de la France, de ses valeurs qui sont portées par la France.
Pas de suppression de langue.
Volonté farouche que nous avons en France de défendre la liberté de la presse et son indépendance. Et donc, de s'assurer que ce qui est dit en matière d'information est fiable. Oui. Dans un monde où on entend tellement de choses qui sont des contre-vérités, dans un monde où il y a tellement d'infox, fake news, eh bien, la France, à travers son audiovisuel public extérieur, peut être ce repère en matière de qualité de l'information et plus largement, en matière de qualité d'accès à des contenus culturels, d'information ou éducatifs de qualité.
Alors, on est écouté
Si je peux compléter, oui, parce que ce qui est très important aussi de savoir, c'est que les décisions éditoriales resteront dans les chaînes, dans les entreprises. Mmh. Donc, ce n'est pas le patron de ce groupe public
ou la patronne,
bien évidemment, puisque vous avez une patronne, Marie-Christine Saragosse, à France Média, qui est un travail remarquable, donnera les instructions sur la ligne éditoriale.
Mais la ligne éditoriale est aussi conditionnée par des questions budgétaires, vous savez.
Alors, sur le budget, nous avons demandé c'est ma prédécesseure qui avait négocié ce point-là avec le ministère du budget en 2017, fin 2017. Mais je suis totalement en phase avec ce qui était négocié. Il y a une trajectoire budgétaire 2018-2022 où on demande à l'audiovisuel public un effort. Oui. Est-ce que nous voulons rétablir les comptes publics et nous demandons
et vous
à
allez
chaque
baisser de 1 euro
à chaque
la
entreprise publique un effort dans le cadre d'une trajectoire pluriannuelle. On va maintenir un financement spécifique pour l'audiovisuel public, la contribution à l'audiovisuel public, et on va continuer de calibrer le montant de cette contribution en fonction des besoins identifiés dans cette trajectoire financière. Or là, en 2020, le rendement prévisionnel de cette contribution à l'audiovisuel public est supérieur à ce qui est mentionné dans la trajectoire financière. Et donc, on a deux choix, soit on le met dans le budget de l'État, soit on le rend en français. Donc on va le rendre en français. Mais ça veut dire ça veut dire que demain, si jamais le rendement de cette contribution à l'audiovisuel public n'était pas suffisant en termes de prévision par rapport aux besoins nécessaires prévus dans la trajectoire financière, on pourrait, comme ça a été le cas pendant plusieurs années, réaugmenter la contribution à l'audiovisuel public. Mais on n'en est pas là. Ce qui compte, c'est d'être transparent avec les Français et que les Français n'aient pas le sentiment qu'ils payent pour quelque chose qui va finalement financer quelque chose d'autre.
Une question, France 24 en espagnol est amenée à se développer. Est-ce qu'elle peut passer à 12 heures quotidiennes, 100 euros supplémentaires?
Vous comprenez bien que c'est pas moi
d'autant
qui vais
qu'il y a 20
répondre à cette
pour
question.
Répondre, Franck
c'est pas moi qui vais répondre à cette question-là. Ouais. Ce sera à France Média Monde de répondre dans les mois et les années qui viennent, et le tout dans le cadre d'un grand service public de l'audiovisuel fort et puissant, une référence en Europe et dans le monde.
Merci Franck Tester.
Merci à vous.
À la semaine prochaine.